Bonjour à toutes et à tous, on est ravis que vous soyez avec nous pour cette nouvelle émission des Échos de l'innovation. Je suis aujourd'hui avec
Alice,
Marie,
Rosalie,
Oscar,
Titouan,
Victor, Florian.
Et c'est donc moi, Juliette, qui vais présenter et animer un peu l'émission aujourd'hui. On va faire durer le suspense un petit peu sur le thème de notre chronique, parce que je vais vous proposer de la deviner avec l'extrait juste ici.
We are on a highway to climate hell with our foot still on the accelerator.
Pour les auditeurs qui seraient aussi peu à l'aise avec l'anglais que je le suis, en français ça donne « Nous sommes sur l'autoroute de l'enfer climatique avec le pied sur l'accélérateur ». Est-ce que l'un d'entre vous sait qui est la personne qui se cache derrière cette affirmation et à quelle occasion elle a été tenue?
Alors personnellement, je ne sais pas du tout, Juliette. Je ne sais pas si un d'entre vous est au courant.
Tu peux peut-être nous donner un petit indice sur le lieu où a eu cette phrase?
La personne qui l'a citée, il appartient à un organisme très très connu.
Peut-être les Nations Unies, je ne sais pas.
Exactement. C'est le secrétaire général des Nations Unies. Vous connaissez son nom ou pas? Un peu de culture.
Antonio, non?
Ouais, Antonio Guterres, c'est ça. Et donc dans son discours, il va revenir en fait sur un des grands enjeux de notre époque, la crise climatique. Parce que dans le dernier rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, on a un état des lieux pour le bien inquiétant qui est dressé. Réchauffement climatique sur le point d'atteindre 1,5 degré en plus, hausse du niveau de la mer. La nécessité pour l'homme plutôt, de limiter son impact environnemental, elle se fait de plus en plus urgente chaque jour. Et au cœur des débats, on retrouve notamment une remise en question de la voiture thermique. Cette dernière, elle contribue approximativement à combien de pourcents des gaz à effet de serre?
10% peut-être?
Non, 29%. Ah. Donc c'est énorme. Et c'est sur cette problématique que portera l'émission « Doit-on interdire le thermique ?». Pour tenter d'apporter une réponse, on va organiser un débat entre nos animateurs qui vont nous présenter les différentes alternatives à la voiture thermique sur le marché. Et on prendra ensuite un petit peu le temps de se questionner sur la pertinence d'un modèle de transport qui est fondé sur la voiture individuelle. Ensuite, on aura Rosalie, Alice et Marie qui nous présenteront leur chronique Fait insolite. Et on conclura avec le...
Doggy bag.
Exactement. Donc pour commencer le débat, je pense qu'une petite présentation des différents types de voitures actuellement sur le marché peut être assez intéressante. Je vous laisse, qui veut se lancer?
Bon bah moi du coup je vais commencer. Moi je vais vous parler un petit peu de la voiture thermique. Donc je pense que la voiture thermique, il y en a la grande majorité qui sont familiers avec ce que c'est. Mais donc une voiture thermique, c'est un véhicule dont le moteur est alimenté par du carburant évidemment. Elle fonctionne du coup grâce à une combustion à haute température d'un mélange d'air et de carburant. Donc les voitures thermiques, c'est actuellement les plus répandues dans le monde. Et voilà, c'est tout pour moi.
Moi, ce que je vais vous présenter, ce n'est pas à proprement parler une alternative. C'est plutôt une alternative au carburant. Donc je vais vous présenter les biocarburants. Les biocarburants, ce sont des carburants de substitution obtenus à partir de la biomasse. Donc pour ceux qui ne le savent pas, la biomasse, c'est les matières premières d'origine végétale, animale ou issue de déchets. Généralement, ces biocarburants sont incorporés dans les carburants d'origine fossile. Et à ce jour, il existe différents types de biocarburants. Le bioessence avec de l'éthanol, le biodiesel avec de l'huile extraite de déchets ménagers ou encore d'algues.
On va également vous parler de la voiture électrique qui se différencie des autres voitures par un moteur qui fonctionne grâce à une batterie ou une pile combustible qui est alimentée par de l'électricité. Ce qui est assez intéressant avec cette voiture, c'est qu'elle existe depuis la fin du 19e siècle, mais elle a été commercialisée uniquement à la fin du 20e siècle.
C'est assez dingue parce que 19e siècle, ça date, hein.
Oui, c'est vrai. Maintenant, je vais vous parler de la voiture hybride. Donc, cette voiture-là, elle fonctionne avec deux moteurs qui fonctionnent en simultané. Donc, on a d'abord un moteur électrique qui fonctionne du coup à l'aide d'une batterie de petite capacité, comme a expliqué Alice. Et ensuite, on a un deuxième moteur qui est un moteur thermique, qui est souvent le moteur principal. Et donc, celui-là, il est la plupart du temps à essence. Et donc, ce moteur thermique qui fonctionne quand la vitesse d'accélération est plus élevée. Donc, c'est souvent 50 km/h.
D'accord, Rosalie. Alors moi, je vais vous parler maintenant des voitures à moteur à hydrogène. Donc pour commencer, on a eu la chance d'interviewer Monsieur de Rennes qui va tout d'abord se présenter et ensuite il va nous parler donc des voitures à hydrogène comme guide d'introduction.
Je suis enchanté d'être avec vous pour vous parler un petit peu de mobilité hydrogène, qui est un sujet que j'affectionne. Donc je suis Tanguy de Rennes, je suis directeur des programmes hydrogène chez Akkodis, donc qui est un fournisseur de services d'ingénierie pour nos clients, des clients de l'industrie. J'ai fait 30 ans chez PSA, donc dans différentes fonctions comme le management de projet. J'ai été chef de gros projets, des projets électriques. Et donc depuis 2 ans, je suis chez Akkodis pour m'occuper donc des programmes hydrogène sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de la production jusqu'à l'utilisation, que ce soit en mobilité ou dans des utilisations stationnaires.
Voilà. Et là, on peut encore écouter un deuxième extrait donc, de M. Thorin qui va nous parler donc, s'il y a des différences entre les voitures et les véhicules à hydrogène.
Alors, c'est tout à fait volontaire parce que quand on regarde des indicateurs comme de la rentabilité ou de l'efficience énergétique, on se rend compte que l'utilisation de l'hydrogène sur les véhicules particuliers est probablement pas très adaptée. Les progrès qui sont faits en ce moment dans les batteries les rendent de moins en moins lourdes et de moins en moins chères et font que leur avantage compétitif par rapport à des solutions hydrogènes, je dirais, augmente. Hein, et donc l'hydrogène devient moins intéressant. En réalité, l'hydrogène se justifie bien pour des véhicules qui sont lourds et pour des véhicules qui ont besoin de beaucoup d'autonomie. Donc sur des véhicules lourds, on aura du mal à mettre des batteries de taille importante pour obtenir l'autonomie désirée. Donc, dans les transports comme le transport de marchandises lourdes, les camions, les trains ou des véhicules de travaux publics, voire des tracteurs, on aura tendance à préférer donc l'hydrogène pour décarboner par rapport aux véhicules à batterie. De ce point de vue-là, je dirais que l'hydrogène est pour moi presque la bonne alternative au diesel, là où la batterie est plutôt une bonne alternative à l'essence, si on voulait schématiser. Et donc pour moi, ce qui est important, c'est effectivement de décarboner la mobilité grâce à l'hydrogène, plutôt que de décarboner effectivement le véhicule particulier, qui, à mon sens, au moins dans les 10 prochaines années, restera majoritairement en batterie. À l'exception de constructeurs comme Toyota, qui a fait donc une Mirai qui est commercialisée, Hyundai avec la Nexo, ou des véhicules, je dirais haut de gamme, hein, supercar, comme Opium, un véhicule français qui sera lancé en 2024 et dont le Crédit Agricole a déjà annoncé acheter 10 000 exemplaires pour les proposer à ses clients.
Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup lui de nous avoir accordé un peu de son temps pour parler d'hydrogène. Donc je vais vous faire un petit résumé donc, par rapport à ce qu'il a dit et par rapport à ce que nous savons à peu près tous sur les voitures à hydrogène. Donc c'est un moyen de transport qui utilise une transformation chimique du dihydrogène comme énergie de propulsion. En particulier, on appelle voiture à hydrogène un véhicule à propulsion électrique mis d'une pile à combustible, utilisant le plus souvent l'hydrogène comme combustible réducteur. Alors cette appellation englobe des véhicules du domaine de l'aérospatial, comme les fusées, ou du domaine militaire, comme des sous-marins hydrogène. Bien que l'usage courant renvoie plutôt au monde des transports que nous utilisons tous.
Ok, bah merci beaucoup Victor et merci à Monsieur Thorin de nous avoir fait ces précisions, parce que je ne sais pas pour votre part, mais je pense que c'était pas mal d'insister un peu sur l'hydrogène, c'était l'alternative que je connaissais le moins, donc au moins elles étaient peut-être un petit peu plus claires avant de se laisser dans le débat. Alors c'est parti. On peut débuter, je pense, avec un aspect très terre-à-terre, ce débat, mais qui prend pourtant une place prépondérante dans notre société actuellement, l'aspect économique. Avant de vous laisser un petit peu défendre vos différentes alternatives sur cet aspect, on a réalisé un micro-totoir pour recueillir des avis sur le sujet. Donc Alice et Rosalie, elles sont allées demander aux passants le type de voiture qui leur semblait le plus économique actuellement, et on écoute juste après leurs réponses.
C'est les transports en commun, tout simplement. Il suffit de prendre le métro plutôt que de prendre la voiture, tu vas au même endroit de toute façon.
Moi, je pense que le point de vue économique, si on n'habite pas loin, c'est le vélo électrique. Honnêtement, moi j'en ai un. Bon, malheureusement, j'habite trop loin du travail, mais j'habiterai à moins de 10 km, je viendrai qu'avec mon vélo électrique pour aller au travail.
D'un point de vue économique, pour la personne, déjà pour le collectif, le transport en commun, c'est plus économique. Et pour la personne, je pense pas qu'il y ait vraiment d'alternative à la voiture thermique au point de vue économique, vu son utilisation actuelle.
Personnellement, j'utilise pas la voiture. Donc économiquement, je pense que c'est tout ce qui est transport en commun. Finalement, c'est pas très cher, je suppose. Et après, toutes les mobilités douces.
Bon, ça va pas beaucoup vous aider parce que là, on n'était pas tant sur la voiture individuelle que sur les modes de transport en commun. Je pense qu'on en revient, on y reviendra un petit peu plus tard. Mais selon vous, au niveau, si on se concentre vraiment voiture, quelle alternative proposée actuellement la plus économique?
Moi, par exemple, je pense que l'hybride, c'est intéressant. Parce que même si, au premier abord, ça semble, le prix semble plus élevé qu'une voiture thermique, je crois que c'est 5000 euros de plus à peu près. Au final, l'entretien, il revient bien moins cher. Et en plus de ça, ça permet quand même de faire des sacrées économies de carburant grâce aux moteurs électriques. Donc par exemple, quand on est dans des embouteillages, dans les zones 30, dans les voies piétonnes, ça fait quand même des grosses économies.
Oui, alors je suis d'accord avec toi sur le fait que les voitures... Parce que du coup, moi, je vais vous parler des voitures électriques. Et effectivement, comme les voitures hybrides, ça coûte plus cher à l'achat, mais puisqu'elles ne bénéficient pas encore de l'effet de masse, il n'y a pas encore assez d'acheteurs. Mais on sait quand même que le prix des batteries a été diminué par 5 en 7 ans. Donc, dans le temps, ça va diminuer. Il y a quand même une prime pour les voitures électriques de 7000 euros. Il y a aussi une prime à la convention exceptionnelle de 5000 euros.
Oui, alors cette prime-là, effectivement, elle n'est plus forcément accordée aux hybrides, oui. Mais elle est quand encore accordée aux voitures électriques.
Oui, vous parlez bien du cas de la France, là, pour la...
Oui, on parle de la France.
Et donc l'électricité, ça coûte moins cher que l'essence. Et l'avantage de l'électrique par rapport à l'hybride, c'est quand même que dans une voiture hybride, la batterie alourdit la voiture et donc elle alourdit le moteur. Alourdit le moteur, donc elle consomme plus, alors que dans une voiture électrique, elle roule qu'à l'électrique.
Oui, donc en fait, ce que tu veux dire, c'est que la batterie alourdit la voiture, du coup, ça consomme plus d'essence.
C'est ça que je
veux dire. Ok, d'accord.
Après, juste, ça montre que l'État aussi accompagne beaucoup les Français pour passer à l'électrique, quoi. Avec les primes et tout à l'achat d'une voiture électrique.
Oui, donc tu veux dire que c'est pas tant la voiture qui est moins coûteuse que en fait les aides qui sont autour qui favorisent ça. Ouais.
Et contrairement à ce que vous avancez vous, moi avec mon alternative donc qui est les biocarburants, on n'est pas obligé de changer de véhicule. Actuellement, le biocarburant c'est une alternative peu coûteuse parce que par exemple pour les véhicules à essence, il suffit d'équiper son véhicule d'un boîtier de conversion éthanol pour pouvoir rouler en super éthanol. Et aussi, donc il n'y a pas de changement de véhicule, ce qui est forcément très coûteux. Et actuellement, quand on voit les prix de l'essence s'envoler, le prix du super éthanol, il est aux alentours de 80 centimes. Donc je pense qu'actuellement, le biocarburant, c'est forcément l'alternative la moins coûteuse.
Oui, alors bon, juste si je peux rebondir sur ça, moi j'ai un petit problème avec ça, c'est que en fait, le bioéthanol, aujourd'hui, ça consomme plus que l'essence, puisque la reprogrammation fait qu'on consomme plus. Et en plus, je ne vois pas en quoi un passage au bioéthanol empêchera un passage à l'hybride, puisque l'hybride, ça a l'avantage de faire des économies de carburant également.
C'est vrai, le biocarburant consomme plus que le carburant classique. Après, en fait, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le biocarburant, durant la vie de la plante, va compenser avec les émissions lorsque l'on brûlera ce carburant. Donc ça, c'est déjà à prendre en compte. Et aussi, ce n'est pas pharaonique, les consommations en plus.
Après, là, ce que tu nous dis là, sur l'histoire de la plante, ce n'est pas tant le coût que l'aspect écologique. Je pense qu'on y reviendra après, mais ça ne change pas tellement le fait que ça reste coûteux.
Oui, bien sûr. Mais c'est aussi pour en venir que même si on consomme plus, ce n'est pas plus... Quand on regarde par rapport à l'autonomie d'une voiture classique, un plein pour la même autonomie, rouler au biocarburant, ça reste moins cher que le carburant classique.
Oui, bien sûr, mais je pense que les économies de carburant faites grâce à un système hybride sont quand même non négligeables.
Ouais, je sais pas trop, Titan, parce que, en tout cas, je suis d'accord avec ce que tu dis par rapport au bioéthanol et au biocarburant, mais on sait tous que les voitures hybrides, donc c'est adapté à très peu de personnes déjà, parce qu'elles sont plus chères. Le moteur électrique ne sert pas lorsque la vitesse dépasse 50 km/h, comme l'a dit Rosalie. Donc ça traduit même par une légère augmentation de la consommation du fait de son surpoids par rapport aux batteries. Et les voitures hybrides sont des voitures de transition, pas plus. Donc bien sûr, ça, c'est la transition pour les voitures électriques. Et aussi, donc je peux reparler par rapport à ça, c'est que les coûts de réparation sont beaucoup plus élevés parce que ce sont des pièces beaucoup plus spécifiques pour ces voitures-là.
Oui, mais alors, là-dessus, je peux rebondir. Même si les pièces sont spécifiques aux voitures hybrides et électriques, au final, elles sont fabriquées pour durer plus longtemps. Donc, en fait, c'est un faux inconvénient parce que, au final, ça revient à peu près au même prix, voire moins cher.
Ok, mais bon, après, si on commence à acheter des voitures qui sont quand même de base plus chères, même avec les primes, plus les pièces qui sont aussi plus élevées, au tout début, pour les Français, ça peut peut-être faire une transition assez brusque. Donc, voilà.
Ouais, je comprends l'argument.
Ok, bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour du sujet et je suis pas sûre que vous trouvez forcément un consensus, mais je pense qu'on peut conclure cette partie économique en affirmant que une transition vers une autre alternative, ça représente un coût conséquent, c'est ce que tu viens de dire, Victor, mais qu'en même temps, ça semble nécessaire. On y reviendra peut-être après. Mais pour le moment, je vous propose de continuer avec cette question. Est-ce que ces différents types de voitures, elles sont pratiques selon vous au quotidien? C'est-à-dire que, est-ce que c'est pas contraignant en fait de les utiliser?
Moi, je vais parler de l'hydrogène. Donc l'hydrogène, c'est une voiture qui est très facile et pratique à utiliser parce que déjà, la conduite, comme ça n'utilise pas de carburant, c'est une conduite super douce, c'est silencieux et c'est très agréable à conduire.
Ça peut faire du bien, ça, le...
Oui.
L'absence de bruit.
Moins de pollution due au bruit. Et de plus, le plein, il se fait très rapidement, en quelques minutes seulement, comparé au plein du carburant, par exemple, où il faut attendre un peu plus longtemps. Et il y a également une très grande autonomie pour la voiture à hydrogène, parce qu'elle va en moyenne jusqu'à 650 km. Et Toyota a réussi un prototype de voiture qui allait jusqu'à 1350 km. Pardon.
Tout d'abord, j'ai une question, peut-être un peu bête, mais est-ce qu'il y a des stations à hydrogène partout en France?
Non, parce que l'hydrogène n'est pas encore très développé, mais justement, ça constitue une des alternatives. Et surtout, l'État et les entreprises privées continuent à investir de plus en plus pour pouvoir promouvoir ce mode de transport.
C'est pour... Et aussi, vous dites que votre plein est rapide à faire, mais en fait, il est équivalent aux voitures thermiques. Donc, ce n'est pas vraiment un avantage, je pense. Alors que le biocarburant, en fait, on n'a pas besoin de changer ses habitudes. C'est pour ça que, pour moi, c'est l'innovation la plus facile au quotidien. Parce qu'on en utilise déjà sans le savoir. Par exemple, à la station essence, vous en avez déjà pris sans faire exprès. Quand vous voyez E85, c'est pour dire que ce carburant est composé de 65 à 85% de bioéthanol. De même pour l'essence sans plomb 95. Donc je pense que vraiment, c'est la transition la plus douce et la plus facile à faire pour tout le monde.
Je ne suis pas d'accord sur l'argument de l'habitude, parce que l'habitude, qu'est-ce que ça veut dire? Si on se brosse les dents tous les jours, alors qu'on ne se brossait pas les dents avant, c'est de l'habitude. Donc, chacun... pardon, je reprends.
Oui, parce que donc, là, on n'a pas tout compris, je crois. Tu nous as un peu perdu, sur le coup.
Quand les voitures électriques n'existaient pas avant, tout le monde utilisait de la thermique. Donc maintenant, quand les personnes passent à la voiture électrique, elles se sont habituées à un différent mode de chargement pour la voiture. Donc... ça peut s'appliquer ici à toutes nos alternatives.
Donc tu veux dire que rien n'est insurmontable, quoi. Qu'il faut peut-être, c'est un peu contraignant de changer, mais qu'il faut le faire, quoi. Enfin, c'est pas impossible.
Peut-être que rien n'est insurmontable, mais actuellement, c'est pas la majorité du parc automobile français roule au thermique. C'est peut-être qu'il y a une raison, et quand même, les habitudes, même si elles peuvent être amenées à changer, c'est quand même un gros frein pour étendre cette technologie, je pense.
Bien sûr, mais le fait que... la plupart des gens utilisent du thermique, je ne pense pas que ça soit par rapport à l'habitude, plutôt par rapport au prix ou alors facilité d'accès, mais pas nécessairement à l'habitude.
D'accord.
Oui. Bon, après, si on parle aussi d'alternatives pratiques, je pense que l'hybride est vraiment dans les meilleurs également, puisque vous ne changez absolument pas vos habitudes. Enfin, si, la seule habitude qui change, c'est que vous avez besoin d'aller à la pompe moins souvent, puisque vous consommez moins, et ça, franchement, c'est sympa. Après, voilà, l'hybride, c'est des batteries qui n'ont pas besoin d'être rechargées la plupart du temps, puisqu'elles se rechargent grâce au moteur thermique quand il est en marche. Et puis, il y a aussi une très forte capacité à se régénérer automatiquement, notamment au freinage et à la décélération du véhicule.
Oui, c'est vrai. En plus, les voitures hybrides, c'est principalement des voitures citadines. Et c'est vraiment pratique, par exemple, pour les trajets de tous les jours domicile-travail.
Ok, bon, là on a...
C'est un point qu'on retrouve aussi dans les voitures électriques, du coup le fait de pouvoir se déplacer, par exemple en centre-ville où il y a des zones qui sont limitées, et on a aussi un gros inconvénient qui n'a pas forcément besoin d'aller à une borne de charge, puisqu'on peut recharger sa voiture électrique directement chez soi si on a un adaptateur à adapter.
Ok, bon, je vous ai coupé, désolé, mais c'était un point personnel à ajouter, je pense. Mais là, on a pas mal parlé d'habitudes, de contraintes, de pratiques. Mais je pense que ça peut être pas mal d'avoir l'avis de passants sur le sujet, parce que je ne sais pas vous, mais à 20 ans, on n'est pas forcément tous équipés d'une voiture, et encore moins d'une voiture haute que thermique. Ouais. Donc on va peut-être écouter ça tout de suite.
Pour mon quotidien personnel, ce serait la marche ou le vélo. Après, c'est assez compliqué. Les transports en commun sont une alternative citadine tout à fait acceptable, mais très limitée dès qu'on arrive à des densités de population plus faibles. Mais aussi limitée quand on commence à avoir une densité de population trop élevée pour ce que le réseau de transport peut supporter.
Pratique au quotidien, bon, je vais dire à la limite les voitures hybrides, qui sont pas mal par contre, les hybrides rechargeables, celles que tu peux recharger, comme ça si tu es à moins de 25 km, tous les jours tu viens qu'en véhicule électrique.
Du coup, je suppose que c'est la voiture et mobilité douce ou mode vélo, parce que c'est quelque chose que tu peux utiliser tout le temps, genre quand tu veux. Tu n'es pas contraint aux horaires des transports en commun, mais niveau météo, c'est peut-être la voiture, ouais. Et confort.
La voiture.
Mais quelle alternative, la voiture thermique, la voiture avec biocarburant, électrique, hybride, hydrogène?
Eh bah, bien, si on ne doit plus avoir de voiture thermique, le plus pratique, c'est la voiture hybride.
Ok, bah alors, on a encore une fois eu pas mal d'avis un petit peu presque contradictoires, je pourrais dire. Et encore une fois, les transports en commun ont pas mal été cités, ce qui est d'ailleurs un petit peu étonnant. Enfin, je ne sais pas pour votre part, mais pourtant, je vois encore beaucoup de personnes qui utilisent les voitures. Mais donc, on va peut-être se retranscentrer à nouveau sur les voitures. Mais avant de passer à notre section suivante, une petite pause musicale avec Highway to Hell de AC/DC, qui cite presque le secrétaire général de l'ONU qu'on évoquait tout à l'heure.
Stop now! Everybody coming down with us. Come on. And I'm going down. Yeah, yeah, yeah. I said, wow. I said, wow. Oh, baby, I think I got one more in me. I said, wow.
Bon, rien de mieux que ACDC un peu pour réveiller tout le monde. Maintenant que c'est fait, on va discuter d'un point qu'on n'a pas forcément abordé jusque-là, mais qui pourtant est fondamental lorsqu'on parle de voiture, le mode d'énergie qui permet de l'alimenter. Donc ce que je veux dire par là, c'est en fait la manière dont on va trouver l'énergie pour que la voiture puisse avancer, tout simplement. Selon vous, quelle est la méthode d'énergie la plus favorable?
Alors, je peux commencer donc avec peut-être pas la plus favorable, mais je vais vous expliquer un peu comment ça marche une voiture à hydrogène au niveau de l'énergie. Donc, l'énergie qui permet d'alimenter une voiture à hydrogène est l'énergie électrique, bien sûr, donc qui est fournie par une pile à combustible. Donc, une voiture à hydrogène est un type de voiture propre dont la source de carburant utilisée est un carburant alternatif, qui est l'hydrogène en l'occurrence. Donc, il faut savoir que l'hydrogène est stocké sous pression dans les réservoirs dédiés du véhicule. Ce gaz, ainsi que le dioxygène de l'air ambiant, alimente la pile à combustible. Ces deux gaz subissent une réaction électrochimique à l'intérieur de la pile. Donc par rapport à mon cas qui est l'hydrogène, je peux dire que l'énergie quand même principale à la base, c'est quand même l'énergie électrique qui est fournie à la voiture et à la pile à combustible.
En ce moment, est-ce qu'on utilise partout dans le monde je pense qu'on doit utiliser des énergies fossiles pour produire de l'hydrogène. Enfin, on peut regarder nos voisins allemands, ça m'étonnerait que leur production d'électricité pour faire de l'hydrogène est viable. Enfin, on sait tous que l'Allemagne se fournit essentiellement grâce aux centrales à charbon, et donc produire de l'hydrogène, c'est pas vraiment vert.
Pour l'Allemagne, oui, mais peut-être pas pour la France. C'est une différence de production du coup au niveau du tout début. Donc par exemple en Allemagne, ça marche grâce par rapport au charbon, mais nous c'est plus par rapport plutôt les centrales nucléaires. On peut même utiliser si on veut donc des panneaux solaires pour alimenter ton électricité. Tu peux stocker l'énergie solaire maintenant sur des voitures. Donc en vrai, il y a plusieurs possibilités, mais en soi, oui, en Allemagne c'est quand même beaucoup moins vert qu'en France. Mais bon, actuellement en France, ça s'améliore de plus en plus.
Et donc, à travers le monde, c'est quand même complexe d'avoir de l'hydrogène vert partout dans le monde.
Ah bah, clairement, oui. Oui, clairement. Donc, en France, déjà, on essaie déjà de s'améliorer donc pour être le moins possible, donc pour de polluer le moins possible, du coup. Mais par exemple, en monde, on ne peut peut-être pas tout gérer actuellement.
Donc, moi, au début, quand je vous ai présenté ce que c'était les biocarburants, je vous avais dit qu'il y avait deux grands types de biocarburants, le bioessence et le biodiesel. Donc en fait, le bioessence, ça s'obtient assez facilement à partir de plantes telles que la betterave sucrière, où le processus de fermentation est relativement court. Ou bien on peut utiliser des céréales pour produire du bioessence. Aussi, on peut remarquer que certains industriels comme Tereos, qui jusqu'alors produisaient exclusivement du sucre pour l'industrie agroalimentaire et pharmaceutique, maintenant ils changent leur mode de production et commencent à produire des biocarburants à base de betterave sucrière. Pour le biodiesel, il y a aussi de nombreuses recherches. Par exemple, on a les algocarburants, donc c'est des biocarburants à base d'algues, mais actuellement, malheureusement, c'est très coûteux. Et donc, pour le biodiesel, il y a aussi la possibilité d'utiliser des déchets ménagers, comme par exemple l'huile de friture, qui devrait être nettoyée pour être utilisée. Mais je pense que ce n'est pas demain qu'on nous verrons tous nos véhicules rouler à l'huile de friture.
Pourquoi pas?
Mais excuse-moi, il n'y aurait pas un risque dans ce que tu dis, Oscar, que toutes les ressources comme les betteraves dont tu parlais tout à l'heure soient utilisées uniquement pour fabriquer du biocarburant et du coup qu'il n'y en ait plus assez pour tout ce qui est l'industrie agroalimentaire et pharmaceutique?
Oui, ça remet en question des modes de production. Après, je pense que les agriculteurs en ce moment, ils sont bien contents parce que c'est encore plus facile pour eux de vendre leur betterave sucrière, par exemple. Et en fait, il faut savoir que, par exemple, la France, c'est le premier pays producteur de sucre. Et donc, si la France s'y met, c'est qu'on peut estimer que derrière, il y a toute une industrie qui suit. Mais oui, c'est aussi à mesurer et à ne pas tout changer, toutes nos cultures céréalières, pour faire du biocarburant, ça n'aurait aucun sens, en effet.
Ça serait de nombreux problèmes.
Oui, c'est sûr.
Ok, bah merci Oscar, c'est une très bonne réponse.
Pour ce qui est de la voiture électrique...
Ouais, oui Marie.
Ouais.
Comment est-ce que ça marche l'électrique Bah, en fait, je crois que ça rejoint un peu ce qu'expliquaient les garçons. Si l'hydrogène, on est au niveau électrique, c'est un petit peu la même chose.
Oui, je pense que c'est à peu près le même mode de production. Tout dépend de comment est fabriquée l'énergie électrique qui alimente les voitures électriques.
Oui, c'est ça. Et en France, comme disait Victor, l'électricité est pratiquement complètement décarbonée, vu qu'on la produit à partir du nucléaire. Donc... au final, une voiture électrique pollue... Enfin, la production, en tout cas, de l'énergie de la voiture électrique en France est pratiquement décarbonée, entièrement décarbonée. Donc, quand elle roule, la voiture électrique ne pollue pratiquement pas.
Mais il y a quand même le problème des déchets nucléaires. Après, ça, c'est notre affaire, mais...
Oui.
Ok, donc, je suis d'accord avec toi, Marie, mais par rapport au recyclage de la batterie, est-ce que tu...
Et contrairement à ce qu'on pense, les batteries de voitures électriques se recyclent très bien, puisque donc c'est des batteries lithium-ion qui sont utilisées dans les voitures électriques. Et selon EDF, aujourd'hui, le recyclage de ces batteries atteint plus de 65%.
Ah d'accord, ok. Okay.
Voilà.
Après, il y a un autre problème au niveau de l'électrique, c'est aussi, je crois, les conditions de vie, non ? Enfin, il n'y a pas une histoire d'éthique derrière ?
C'est ça, parce que la production des batteries, elle nécessite des métaux rares. Et l'extraction de ces métaux rares nécessite l'utilisation de produits chimiques et beaucoup d'énergie dans des pays où l'utilisation est produite à partir d'énergie fossile. Donc c'est à ce moment-là qu'il y a un problème.
En fait, moi j'ai l'impression qu'on oublie souvent les conditions de vie des travailleurs. Enfin là, vous en parlez, mais je pense qu'on n'en parle pas assez. Enfin... Quand on pense rouler avec une voiture électrique, on pense se diriger vers un mode de transport plus vert, mais on se rend compte que ça ne respecte pas forcément les droits de l'homme. Récemment, il y a un rapport de l'Union européenne qui dit que le commerce des minerais, donc des minerais pour, entre autres, faire des batteries électriques, mais aussi pour les batteries de téléphone, mais on s'écarte un peu du sujet, peut être utilisé pour financer des groupes armés, alimenter le travail forcé et d'autres violations des droits de l'homme, comme soutenir la corruption ou le blanchiment d'argent. Donc, comme ce que je disais, je trouve ça un peu paradoxal quand même. On choisit un véhicule vert, mais à côté, on ne respecte pas les conditions de travail de tout le monde. Et ça, forcément, pour moi, ça me pose un problème éthique.
Je comprends ton argument, effectivement. Il y a un problème à ce niveau-là.
D'autant que l'idée d'être vert, c'est aussi penser aux générations futures. Donc, c'est complexe de penser aux générations futures, mais en fait, au détriment de certaines générations actuelles, quoi.
Après, pour finir sur une note un petit peu plus positive, on remarque aussi qu'il y a pas mal de marques comme par exemple BMW, pour ne citer que, qui essayent de vérifier leurs fournisseurs. Ils ont des accords et on voit que chez les constructeurs automobiles, ils pensent à ce problème social et environnemental de plus en plus. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de bénéfique.
Okay.
BMW, tout le monde ne peut pas acheter une voiture chez BMW, quoi. C'est juste ça.
Oui, mais je pense qu'au-delà de ça, au vu de l'urgence de mener une transition, on a forcément des solutions pour imposer, on va dire, aux pays qui extraient ces minerais rares des conditions de travail plus respectueuses de leurs employés. Je pense que si, pour un besoin qui touche... une population entière, si on n'est pas capable de mettre en place suffisamment de pression, entre guillemets, sur les pays qui extraient ces matériaux rares, c'est qu'il y a quand même un manque de volonté de la part des politiques qui nous dirigent.
Et bah, c'est un avis très politisé, mais c'est, je pense, un argument assez pertinent et qui s'applique pas que là, au niveau de l'extraction au niveau des batteries. Mais je pense qu'on s'éloigne un petit peu du sujet. On peut peut-être se recentrer et continuer en fait avec un autre point, notre débat. L'aspect systémique.
Moi, juste, on avait demandé à des personnes dans la rue pour le micro-trottoir ce qu'elles en pensaient. Bah, donc, si tu veux, on peut lancer pour avoir un peu l'avis de la population.
Pour la voiture, l'énergie, après, le problème, c'est que l'électrique, on sait que les composants sont pas mal polluants à la fabrication. Et moi, je sais que dernièrement, j'ai appris que malheureusement, une voiture électrique, dans sa fabrication, est plus polluante qu'une voiture thermique. Donc, c'est assez compliqué de savoir ce qui serait... Mais pour moi, je roule à l'essence, donc je pense que c'est l'essence le mieux encore aujourd'hui.
Le nucléaire, tout est là. Il faut arrêter avec ces idioties d'éolien, de solaire, de ce que vous voulez. Ce qui marche, c'est le nucléaire et l'hydroélectricité. Sauf qu'on a un nombre limité de barrages en France, du coup, il faut construire des centrales nucléaires.
Tout ce qui est énergie renouvelable.
Pour l'instant, les sources d'énergie fossiles sont les plus favorables parce que l'alternative électrique est pour l'instant non fonctionnelle parce que les systèmes de support ne suivent pas. S'il y avait des moyens de recharger sa voiture plus régulièrement ou que les batteries de voiture électrique aient une autonomie plus importante, alors l'électrique pourrait avoir une meilleure alternative. Mais en l'attente, les énergies fossiles sont pour l'instant la seule source d'énergie viable avec le parc automobile actuel.
Bon, t'as bien fait de m'interrompre, Alice, parce que je pense que c'est vrai que c'est pertinent d'écouter un petit peu l'avis d'autres que nos animateurs. Mais je vous redonne la parole. Ça y est, donc lancez-vous.
Je dis pas que notre avis n'est pas pertinent.
Non. jamais. Et justement, je veux l'entendre. D'un point de vue systémique, est-ce que vous pensez que vos solutions elles peuvent être appliquées ?
À titre personnel, je pense qu'actuellement, les biocarburants, c'est la technologie applicable à plus grande échelle et le plus rapidement possible par rapport à toutes les autres alternatives. Parce que, comme je l'ai dit précédemment, elle est beaucoup moins coûteuse et moins complexe. On n'a pas besoin de recréer une voiture. On part avec notre voiture de base, on rajoute un kit pour les biocarburants et c'est à peu près toutes les modifications qu'on fait. Et aussi, on n'oublie pas de changer de carburant à la station à essence. Et donc, je pense que c'est vraiment une alternative de transition, bien sûr, mais qui peut être intéressante parce que ça facilite le changement.
En tout cas, on te sent convaincu par la question.
En effet, je le suis.
Moi, je vais vous parler de l'hydrogène. Donc, on a vu que l'hydrogène, il y avait beaucoup d'inconvénients, malheureusement. Comme c'est très coûteux, il y a peu de stations disponibles en France. Et également que la production d'hydrogène n'est pas forcément renouvelable parce que la plupart de la production, donc plus de 95%, ça vient de la méthanisation. Donc ça utilise des procédés très carbonés qui rejettent du CO2 et d'autres gaz à effet de serre. Donc c'est pour ça qu'il y a des investissements massifs des États et des entreprises privées pour justement pouvoir mieux innover et trouver des solutions plus vertes à cette énergie. Et donc, comme on a pu entendre l'expert tout au début de notre émission, l'hydrogène n'a pas vocation à être généralisé à tous les particuliers, mais justement à être plus implanté dans le secteur de l'industrie, pour les poids lourds, qui ont besoin de parcourir plus de distance avec des charges plus grandes, mais également pour d'autres secteurs des transports, comme le train, l'avion. Et c'est plus attractif pour eux qui ont les moyens justement d'investir dans ce mode alternatif.
Là, ça rejoint ce que nous disait l'intervenant tout à l'heure, en fait.
C'est ça.
Okay, très bon. Et au niveau de l'électrique, on vous a pas entendu ? Est-ce que...
Eh bien, c'est pas forcément... Enfin, il faut effectivement changer tout le parc automobile pour passer à la voiture électrique, ce qui n'est pas forcément un avantage. Mais on voit que quand même, elle s'est beaucoup développée et rapidement, récemment, et qu'il y a des pompes à électrique partout en France, notamment. Donc, que ça va vite et que ça pourrait se développer à grande échelle.
Oui, alors maintenant, si je peux me permettre, on sait effectivement que les matières premières pour produire les batteries, bon, c'est actuellement compliqué de se les procurer. Et donc l'hybride, c'est encore une fois là une bonne alternative puisque les batteries sont plus petites et que donc du coup, avec une même quantité de matières premières, on peut produire bien plus de voitures hybrides que de voitures électriques.
Ok, bah, merci pour toutes ces précisions. On peut peut-être passer en fait au point un petit peu brûlant. On n'a pas arrêté de en fait l'aborder un petit peu indirectement au travers de nos autres aspects. Tout simplement l'aspect écologique puisque c'est un petit peu le but aussi de toutes ces alternatives. Être plus vert.
Donc comme je vous l'ai dit juste avant, c'est que le biocarburant, c'est une alternative de transition. En fait, il ne faut pas se fixer comme objectif de transformer tout le parc automobile à terme en biocarburant. Je pense que le biocarburant, il doit être vu voilà, comme une alternative de transition, le temps de se préparer correctement à utiliser des véhicules, par exemple, électriques ou à hydrogène. Parce que je pense qu'aujourd'hui, en fait, on a un gros problème avec le traitement des batteries, entre autres, l'extraction des batteries. Et les biocarburants, ils permettent de produire, enfin de faire d'avoir une solution la plus raisonnable possible.
Moi, je voudrais parler des voitures, au nom des voitures hybrides et aussi électriques. Par exemple, Alice et Marie pourront confirmer, mais c'est quand même du point de vue écologique, c'est quand même très intéressant parce que déjà, on produit moins d'émissions. Il y a moins d'émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est intéressant niveau pollution atmosphérique. Ensuite, il y a un avantage non négligeable qui est le respect des zones à faible émission mobilité et des vignettes critères. Donc il y a beaucoup de grandes villes maintenant qui sont équipées de ce système et les voitures hybrides et les voitures électriques permettent de continuer à circuler dans ces villes.
Ok, et moi juste pour finir par rapport à l'hydrogène, je trouve que en fait en France il n'y a pas assez bien sûr donc de stations pour faire le plein par exemple. Moi j'habite à Vannes actuellement et il y a une station qui est juste disponible pour les bus et pour les camions. Donc c'est assez dommage que l'hydrogène ne soit pas encore mis en avant, donc je pense que c'est un peu le début de cette énergie en France.
Donc à vous entendre, on a l'impression que la voiture personnelle, l'objectif final, c'est de passer en voiture électrique. Et pour les transports plus lourds, ça serait donc l'hydrogène.
Pourquoi pas. Ouais. Ça pourrait être une possibilité pour l'instant pour commencer. Donc c'est oui, une sorte de transition aussi.
D'accord.
Bon on a pu entendre donc toutes les différentes solutions. Moi je vais essayer de récapituler un petit peu ces différentes solutions. Je pense que comme on l'a vu, il n'y a pas de solution parfaite si on s'intéresse à l'hydrogène puisque c'est le dernier dont on vient de parler. On sait que le problème principal c'est bien évidemment la production d'hydrogène, mais on sait aussi que stocker l'hydrogène c'est quelque chose de très complexe, que ce soit sous forme liquide à cause de la température ou gaz à cause des risques associés au stockage d'un gaz. Je pense que l'électrique c'est pareil. Il y a des problèmes notamment avec la production. En France, on a moins ce problème entre guillemets si on fait abstraction des déchets nucléaires. Mais dans d'autres pays, je pense notamment à l'Allemagne qui refuse justement l'utilisation du nucléaire, eh bien, ils produisent quand même une partie de leur électricité grâce au charbon, ce qui est très, très polluant. Donc là aussi, en plus, on a le problème du traitement des batteries une fois qu'elles sont en fin de vie. L'hybride, on a des problèmes puisqu'on peut imaginer que c'est une demi-transition et que c'est donc pas pertinent. En effet, malgré tous les avantages d'économie de carburant, c'est quand même des voitures qui sont plus chères et qu'on alourdit avec un double système à la fois thermique et électrique. Et puis pour les biocarburants, on a tous ces problèmes liés à la production. On sait que déjà l'agriculture aujourd'hui, on produit pas suffisamment pour suffire... avoir suffisamment de nourriture pour toute la population. Donc est-ce que c'est vraiment pertinent de produire de la betterave pour des biocarburants? Je ne sais pas. Voilà.
Écoute, merci Titouan, tu m'as mâché le travail parce que là ton résumé je le trouvais vraiment particulièrement clair et on s'aperçoit en fait finalement que toutes les alternatives qu'on a évoquées possèdent des limites non négligeables. D'une part, d'un point de vue écologique, elles sont pas toutes forcément viables et ni applicables en fait d'un point de vue systémique. On va peut-être quand même pour conclure écouter l'avis des gens en fait sur on leur a simplement posé la question suivante: quelle est selon vous la meilleure alternative?
D'un point de vue économique et écologique, le mieux serait de conserver sa voiture actuelle puisque ça épargne déjà un certain coût qui est celui de l'achat d'une nouvelle voiture. Et en même temps, ça évite de prendre des matériaux dans la nature, de produire de la pollution en les assemblant. Et...
écoute, j'ai de la chance d'habiter juste à côté de mon lieu d'études, donc j'y vais à pied. Mais j'imagine qu'une fois que je travaillerai probablement à Paris, donc les transports en commun. Mais si j'habite à la campagne, ce sera la voiture. Et si au moment où j'achète une voiture, le prix de la voiture électrique est suffisamment bas, ce sera une voiture électrique.
Bah, honnêtement, si j'avais les moyens, ce serait une voiture électrique. Parce que c'est quand même, on va dire, quand on a la voiture, après, c'est une alternative très écologique. Mais niveau moyen, oui, ça serait vraiment la voiture électrique.
Je suis un Parisien, je marche et j'ai Navigo.
Ok, donc on s'aperçoit que l'électrique, ce serait peut-être l'alternative qui plaît le plus, mais on a encore quelqu'un qui nous a cité, en fait, se déplacer à pied. Donc ça rejoint un peu ce qu'on disait, je pense que les gens ont conscience qu'il y a des limites, en fait, à ces alternatives, et que, en fait, il n'y a peut-être pas forcément une alternative aujourd'hui qui pourrait nous permettre d'utiliser notre voiture aussi régulièrement qu'on le fait avec notre voiture thermique actuellement, sans avoir les impacts dramatiques pour l'environnement que suscite le thermique. Mais est-ce bien grave, en fait ? Est-ce que c'est si dramatique si chacun ne dispose pas de sa voiture aussi régulièrement aujourd'hui, si on ne prend pas sa voiture pour aller acheter le pain qui est à 10 minutes, ou si on part en vacances dans la région d'à côté et pas forcément à Ibiza. Ce que je veux dire par là, en fait, ce que je cherche un petit peu à introduire, c'est est-ce que, au lieu de chercher à développer un nouveau type de voiture individuelle, on ne doit pas simplement repenser au mode de déplacement. Et voilà, je pense que les filles Alice et Rosalie vont pouvoir nous en dire plus avec Victor. Mais avant ça, on fait une petite pause musicale.
Yeah, I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more.
I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch now. Nah, nobody tell me nothing.
You can't tell me nothing.
Can't nobody tell me nothing.
You can't tell me nothing.
Riding on a tractor, lean all in my bladder. Cheated on my baby, you can go and ask her. My life is a movie, bull riding in boobies. Cowboy hat from Gucci, Wrangler on my booty. Can't nobody tell me.
Like a rock star, spend a lot of money on my brand new guitar. Baby's got a habit, diamond rings and Fendi sports bras. Riding down Rodeo in my Maserati sports car. Got no stress, I've been through all that. I'm like a Marlboro man, so I kick on back. Wish I could roll on back to that old town.
Alors Alice et Rosalie, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que l'automobile est-elle morte ?
Alors on peut commencer à répondre à cette question en faisant un petit constat. Donc d'après le rapport Sectaine de CITEPA, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique. Les transports représentent l'industrie la plus polluante en France, avec une émission de 29,4% de gaz à effet de serre à l'échelle nationale en 2019.
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. On peut parler d'ailleurs, pour moi, d'un problème aujourd'hui, c'est la mobilité abusive, donc avec le tourisme qui est surdéveloppé. Donc, on le sait tous, mais l'impact carbone des avions est énorme. Et est-ce que c'est vraiment pertinent de voyager aussi loin pour 2 semaines ou de prendre un avion pour se déplacer au sein de son propre pays ?
Ah bah, demander au PSG avec Mbappé et Neymar.
Merci Victor. Du coup, une première solution évidente quand on pense à un constat comme celui-là, c'est de favoriser les modes de transport écolo, comme on dit. Donc, que ce soit pour des trajets du quotidien ou bien dans le cadre d'un déplacement longue distance. Donc, quand je parle de transport écolo, j'entends le covoiturage et bien sûr les mobilités douces, tout ce qui est vélo, trottinette, skate, puis bien sûr la marche.
Tu vas bien nous le dire, parce que je crois que la dame dans le micro-trottoir n'arrêtait pas d'utiliser le terme. Et j'avoue, je ne connaissais pas mobilité douce.
Oui, mobilité douce, voilà, okay. C'est ça, tout ce qui est, comme j'ai dit, vélo, marche, tout ça. Okay. On a aussi, bien sûr, des trains et les autocars pour partir en vacances. Alors, bien sûr, c'est plus long, mais ça fait aussi, je trouve, partie du folklore des vacances. Un peu, ça nous fait toujours des bons souvenirs et puis des petites galères au passage. Ça peut être sympa, quoi.
C'est vrai.
Bah oui, c'est vrai, parce qu'on ne le sait pas, mais un bus sera équivalent à 30 voitures en termes de capacité. Parce qu'on veut dire que si un bus est rempli de 30 personnes, ça peut économiser environ 30 voyages, donc 30 voitures qui roulent en moins, donc c'est pas mal. Donc ça représente une émission de CO2 très basse compte tenu du nombre de passagers.
C'est vrai, on peut aussi parler des tramways qui sont utilisés en ville et du coup qui fonctionnent à l'électricité. Donc c'est également très éco-friendly, comme on dit, au même titre que la voiture électrique, donc on va en parler tout à l'heure.
Oui, on avait entendu tout à l'heure donc avec les micro-trottoirs que les gens sont tout à fait prêts à abandonner la voiture au profit des transports en commun ou mobilité douce, pour l'instant pour des courts trajets.
Oui, enfin, c'est bien gentil, mais il faut arrêter de penser que la technologie nous sauvera. C'est du technosolutionnisme. Un des problèmes récurrents au progrès technologique est que chaque nouvelle solution technique engendre encore plus de problèmes. Ça a même un nom, et c'est l'effet rebond.
Oui, c'est vrai. Ça rejoint ce qu'on disait sur les voitures électriques. Même si cette dernière se veut plus propre, remplacer toutes les voitures thermiques encore en circulation, au nombre d'un milliard, coûterait énormément d'argent au moment de la fabrication, de l'extraction des matières premières et de la gestion des déchets.
Oui, enfin, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous nous proposez ? On fait quoi ? On retourne à l'âge de pierre ? On se déplace en calèche, à cheval ? Enfin, je sais pas, moi. Mais...
Eh bien, pourquoi pas ? Tout ce que je dis, c'est qu'il faut qu'on change radicalement de modèle, qu'on trouve un nouveau paradigme.
Alors, écoute, c'est pas en nous assédant de mots philosophiques comme ça qu'on va vraiment avoir une solution. Nous, ce qu'on voudrait, c'est du concret, savoir qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que les choses aillent mieux.
Non, mais je suis d'accord, hein. Non, mais c'est vrai. Oui. Mais par exemple, pour répondre à ta question tout à l'heure, Alice, on pourrait commencer par faire plus de télétravail. Déjà, on aurait moins de surface de bureau et en plus, on aurait moins de déplacements.
Ok. Ça pourrait être une solution, effectivement.
Oui, mais moi, j'ai entendu dire qu'il y avait aussi des effets rebonds avec le télétravail. Donc, par rapport à la relocalisation du domicile, l'usage de la visioconférence et les consommations énergétiques du domicile, par exemple, peuvent réduire en moyenne de 31% les bénéfices environnementaux du télétravail.
C'est tout à fait vrai ce que tu dis, Victor. Bon, on voit bien avec tous ces différents aspects qu'il n'y a pas vraiment deux solutions évidentes. Personnellement, je pense que le mieux, c'est de discuter tous ensemble et que c'est comme ça qu'on arrivera à trouver une solution pour changer les modalités et les habitudes.
Enfin, je pense que discuter est un peu faible. Ça fait déjà longtemps qu'on est au stade de discussion et que rien ne bouge et qu'il faut travailler avec des instances et modifier nos lois. Et c'est pour ça qu'il faut favoriser les démocraties participatives et surtout passer à l'action.
On peut peut-être juste préciser rapidement ce qu'est une démocratie participative. Enfin, en fait, c'est l'idée d'inclure plus les citoyens dans le cadre de la démocratie, ne pas avoir quelque chose de législatif avec quelqu'un à la tête qu'on a élu et puis qui ensuite a les pleins pouvoirs pour décider.
Merci beaucoup pour ces explications, Juliette, parce que c'est vrai que tout le monde ne connaît pas forcément le terme de démocratie participative.
Après, je pense que là, c'est un tout autre débat sur la manière en fait, de faire passer les choses, enfin, notamment le type de démocratie. Là, on s'éloigne un petit peu, mais ce serait très intéressant. Mais on n'a pas le temps, malheureusement. On est même un petit peu en retard, donc on va peut-être un petit peu accélérer. Mais en tout cas, je pense qu'à travers vos points de vue opposés, on comprend tout l'enjeu du sujet, qui est sauver la situation écologique et offrir un avenir viable aux générations futures. Eh bien, ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Ça implique une forme de sacrifice, voire un retour en arrière, comme l'a évoqué Victor et Alice, avec des opportunités qu'on a et qui devraient peut-être être supprimées. Enfin, là, par exemple, je parle des vacances ou des choses comme ça. Mais je conclurai cette petite chronique avec la question suivante. Vaut-il mieux avoir quelques dizaines d'années où l'on profite pleinement, quitte à ne plus pouvoir profiter du tout dans un futur pas si éloigné, ou alors se restreindre un petit peu et permettre à notre génération et aux générations futures, qu'on a souvent tendance à oublier, d'avoir un avenir, tout simplement, à méditer. Mais je pense que personnellement, la voie, elle me paraît plutôt claire. Dans tous les cas, on va bientôt clore notre émission. Et pour apporter un petit peu plus de légèreté à tout ça, on vous propose d'enchaîner avec la chronique Fait Insolite. Donc, Marie, Alice, Rosalie, qu'est-ce que vous avez à nous proposer? Qu'est-ce que vous avez dégoté?
Eh bien, le saviez-vous que la première voiture à passer les 100 km/h était une voiture électrique? La Jamais Contente dépasse les 100 km/h le 29 avril 1899 et c'est le Belge Camille Genazzi qui l'a fait construire. Celle-ci atteint ce record grâce à deux moteurs électriques de Postelvinet d'une puissance de 50 kW. Et ce qui est encore plus fou, la Jamais Contente est maintenant exposée au musée de la voiture de Compiègne.
On ne fait pas de pute pour ça, mais vous pourriez aller.
C'est super. Moi, je voulais vous parler de la Carpuccino. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais en fait, c'est la voiture qui roule au café. Et en 1988, y a une émission britannique qui s'appelle Bang on Goes the Theory, qui a pour but de mettre la science à l'épreuve et qui a fait l'acquisition d'une Volkswagen Sirico, donc c'est un modèle de voiture, qu'elle a ensuite modifiée pour pouvoir la faire rouler grâce à l'énergie générée par la combustion de café.
On voit donc que c'est pas juste un fantasme de gamin puisqu'elle a réussi à rejoindre Manchester en partant de Londres, soit 320 km en une dizaine d'heures. Lors du voyage, la fameuse voiture a consommé 70 kg de grains de café issus de déchets de l'enseigne Costa Café, soit l'équivalent de 10 000 expresso. Donc ça fait vraiment pas mal pour nos amateurs de café.
Tu m'étonnes. Bah écoutez, merci, c'était sympathique et on en sortira et bah plus cultivé. Hein. C'est toujours pas mal à proposer dans les dîners de famille.
C'est ça.
Maintenant, on va passer assez rapidement au doggy bag parce que c'est bientôt l'heure de se quitter. On a évoqué pas mal d'alternatives, mais on s'est aperçu que elles possèdent toutes des limites. Ces alternatives, elles sont problématiques en quelque sorte. Donc interdire le thermique pour des solutions pas forcément viable, on ne sait pas forcément si c'est pertinent et l'idée ce serait plutôt en fait de modifier notre mode de déplacement plutôt que le type de voiture, favoriser les transports en commun, elles ont été énormément citées par les passants, repenser à notre mobilité par exemple la mobilité superflue, le tourisme, pourquoi pas du télétravail, mais attention ici à l'effet rebond. En tout cas, on peut conclure en disant que pour faire changer les choses, il faut vraiment une volonté de chacun. Il faut accepter de faire certains sacrifices, mais qui sont dans le fond nécessaires pour qu'on puisse se construire un avenir viable. En tout cas, on vous remercie tous et toutes de nous avoir suivis dans ce voyage. On espère que vous avez apprécié le moment et on a hâte de vous retrouver pour la prochaine émission. On vous dit à très bientôt.
À bientôt. Ouais, merci Juliette d'avoir tout bien résumé. À bientôt.
Au revoir.
À bientôt. Et on va se quitter avec une dernière note musicale, Midnight City de M83.